This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
The Humana Honor Medicare Advantage Plan gives you $1,860 back each year in your Social Security check. Choose coverage that helps you keep more money in your pocket. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. The Part B Give Back benefit pays part or all of your Part B premium, and the amount may change based on the amount you pay for Part B. Limitations and restrictions may apply. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal.
De l'origine de ces contes, des mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une fadaises, contes à dormir debout. Ouvrage dans un goût très moderne. Par Jacques Cazotte. De l'origine de ces contes. La baronne de... Au retour de sa campagne, alla voir la marquise de... Après les premiers compliments, la marquise prit la parole. « Mais regardez-moi donc, baronne. Ne me trouvez-vous pas changée à faire peur ? Il y a 15 jours que je n'ai fermé l'œil. Imaginez combien je souffre. J'en deviendrai folle. » Elle avait raison de dire qu'elle souffrait. Une jolie femme qui ne dort pas souffre plus qu'une autre. Elle sent que la fatigue l'enlaidit. Elle meurt à petit feu. « Effectivement, dit la baronne, je vous trouve changée. Cependant, je ne vois pas que le mal soit aussi grand que vous le faites. Votre œil n'a rien perdu de sa vivacité. Mais n'essayez-vous pas quelque secret ? À propos de secret, ne vous souvient-il plus de ce discours académique que nous récita l'abbé de... qui vous fit dormir de si bon cœur ? Il est de nos amis, cet abbé. Faites-le venir à votre chevet. Si un de ces discours ne vous suffit pas, il en débitera 4. C'est un torrent d'éloquence. 4 discours ? Dit la marquise. Ah, vous extravaguez, baronne ! Mais savez-vous que vous me parlez là d'un régime assommant ? Je dormirais à ce prix, moi. Et qu'importe à quel prix vous dormiez, reprit la baronne. Allons, madame, ayez cette obligation à l'abbé. C'est un homme de ressources, et ce n'est pas dans ses harangues seules qu'il est admirable. Il parle comme il écrit. L'autre jour, il vint à ma terre avec ses nouvelles et ses contes usés. Il nous fatiguait plus lui seul. Au milieu de ce discours de la baronne, on annonça l'abbé dont elle faisait l'éloge. « Ah, notre cher abbé, on se plaignait de vous, » lui dit-elle. « Les voilà, ces chers petits hommes. Dès qu'on les souhaite, on ne les voit plus. Madame la marquise est malade. Elle est travaillée d'une insomnie cruelle. Et vous l'abandonnez, au lieu de venir lui faire compagnie, la désennuyer par ces petits contes de votre façon où vous mêlez tant d'agréments. « Ah, madame, » reprit modestement l'abbé. « Ah, monsieur, » reprit vivement la baronne, « ne vous défendez pas d'avoir de l'esprit, d'être aimable. Vous avez d'autres torts que ceux-là, que vous réparerez, s'il vous plaît. En un mot, il s'agit de souper ici et de ne pas quitter madame qu'elle ne soit endormie. Parlez, criez, extravaguez, mais de l'esprit partout. » L'abbé se prête volontiers à la raillerie. Il ne se défendit de rien. On servit le souper, on mangea, le fruit vint et disparut. « Allons, l'abbé, » dit la baronne, « entrez en lice, et surtout ne faiblissez point, le mal est opiniâtre. » « Par où, madame, souhaite-t-elle que je commence ? » répliqua l'abbé. « Voudriez-vous les nouvelles du jour ? » « Eh, fi, l'abbé, nous avons la gazette. » « Quelle espèce de conte ferais-je ? Vous n'aimez pas les contes libres ?» « Pour ceux-là, » dit la baronne, « ils sont bons, mais ils n'auront pas leur place ici. On a défendu à madame le vin de champagne, les épigrammes, les contes libres et en général tout ce qui réveille le sang. Sans cela, nous avons des brochures nouvelles. Nous les aurions lues. « Que souhaitent donc ces dames ? » poursuivit l'abbé. « Des naïvetés ? Eh, fi, l'abbé, vous les avez pris dans Pitaval. Faites-nous des contes des fées. »
J'obéirai, mesdames, reprit l'abbé, quoique novice dans le métier que vous me faites faire, métier qui a ses difficultés.
Le conte est un genre ridicule, usé, peu intéressant par lui-même, qui ne se soutient que par la nouveauté de l'invention, par la vivacité des images. Il faut que l'esprit y voltige incessamment, sans être suspendu, et l'instruction ne s'y mêle guère, à moins qu'on ne la tire aux cheveux.
Oh ! S'écria la baronne en bâillant de toutes ses forces. Bravo, l'abbé, bravo ! Nous dormirons bientôt. Continuez sur ce ton-là.
Comment donc ? Mais c'est un prodige ! Voilà assurément une petite préface qui vaut de l'or.
Allons, débutez par une réflexion, je les aime.
L'abbé prit ainsi la parole. Il faudrait bien du talent pour empêcher une mauvaise femme de faire du mal.
Un moment, l'abbé, dit la marquise en l'interrompant.
Je ne crois pas votre réflexion naturelle.
Hé, marquise, dit la baronne, vous êtes là pour écouter et non pour contredire. La contradiction réveille l'esprit, c'est un poison pour vous.
Continuez, mon pauvre abbé, continuez, et comptez-nous tout uniment, puisqu'il est décidé que vous n'avez pas le talent des réflexions.
Fin de l'origine de ces contes. Enregistré par Ezoie, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 1 des Mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 1. Où l'on verra la naissance de Riante et la jolie personne que c'était que la fée Trois Bosses. Il y avait une fois une dame sans caprice, dont on ne sait pas précisément le nom, mais je crois qu'elle s'appelait Rare. Femme très particulière, aimable sans se piquer de l'être, sans minauderie, sans vapeur, qui ne médit jamais d'une femme plus jolie qu'elle. Par conséquent, femme haïe. Car avec tant de vertus, on est toujours incommode. « Au moins, mesdames, dit en souriant l'abbé, ce sont des fables que je vous conte. Mais pour revenir à mon héroïne également détestée de la prude et de la coquette, de la galante et de l'insensible, parce que sa conduite faisait le procès à tous les travers, elle fut forcée de se retirer dans un château sur les frontières où ses vertus ne fissent rougir personne. Elle s'y appliqua à la lecture et devint femme savante, sans devenir sotte, tant elle était destinée à être singulière. Quoiqu'appliquée à l'étude, elle avait une fille qu'elle élevait avec soin. On la nommait Riante, soit que ce fût à cause d'un sourire spirituel, sans être malin, qui lui était particulier, soit que, comme quelques-uns prétendent, au lieu de pleurer, elle ait débuté en venant au monde par un éclat de rire. Les partisans de cette dernière opinion rapportent à ce sujet une anecdote qui ne laisse pas que d'avoir son mérite. Vous savez comme moi que les fées se trouvaient autrefois à la naissance de tous les enfants de condition. C'était une des prérogatives. C'était, si vous le voulez, une des charges de leur état. Car l'emploi ne laissait pas d'être pénible. Les enfants des grands ne naissent point privilégiés. Elles se trouvaient là fort à propos pour rectifier la nature, pour douer de beauté ceux qui ne l'avaient pas, y ajouter des grâces qui en font tout le prix, pour réunir les talents qu'on a tant de peine à rassembler, pour y joindre la modestie, qui est presque incompatible, enfin, pour faire quantité de choses excellentes, et qu'on ne voit plus depuis qu'on s'est avisé, je ne sais pourquoi, de supprimer les fées. Les fées présidèrent donc à la naissance de Riante, mais elles eurent peu de choses à faire. Jamais personne ne fut plus doué que cette aimable fille. C'était une figure intéressante, un esprit, un cœur, un caractère heureux, un enfant gâté de la nature. Quand elles lui eurent donné le talent de se faire aimer de tout le monde, avantage dont on n'est pas sûr, avec tout le mérite possible, elle posséda éminemment tout ce qu'une femme peut posséder de mérite. C'est tandis qu'elle la considérait avec attention que l'éclat de rire lui échappa. Un éclat de rire dans un enfant qui naît, c'est une chose surprenante. Elles y soupçonnèrent du mystère, et il y en avait en effet, soit instinct, soit un peu de raison, car Riante était précoce.
elle n'avait pari sans un violent sujet. Il se passait alors dans le tuyau de la cheminée une scène assez risible qu'elle avait apparemment devinée. Il en sortait des hurlements affreux. Une femme de chambre de Rare alla pour voir d'où il provenait. Mais il lui tomba dans les yeux une grande quantité de suie et une certaine humidité dont l'odeur n'était pas favorable. Et c'est tout ce que lui valut sa curiosité. La fée Lirette, qui était de l'assemblée, s'approcha ensuite pour regarder et fut bientôt au fait du mystère. Imaginez sa surprise quand elle reconnut la fée Trois-Bosses, son ennemie, qui était prise dans le tuyau de la cheminée et qui s'efforçait inutilement d'en sortir.
« Et que faites-vous là, notre chère ?» lui dit-elle.
« Pour le coup, nous vous tenons, et vous nous laisserez des gages. Vous ne sortirez pas d'ici que vous ne m'ayez remis votre baguette. »«
Ma baguette ?» reprit Trois-Bosses. « Je vais te la porter dans le moment, attends-moi. »
En disant cela, elle tâchait de se dégager. Mais par les charmes de Lirette, la cheminée se rétrécissait si fort que la malheureuse Trois-Bosses allait être entièrement aplatie si elle n'eût pris le parti de laisser tomber sa baguette. Lirette la ramassa et la donna à Riante. On l'attacha à son col comme un hochet. Tant qu'elle aurait cette baguette, elle ne devait craindre aucune mauvaise aventure, mais qu'elle se garda bien de la perdre. Après cette courte instruction, Lirette se retira. Le reste des fées la suivit. « Je vois, mesdames, que vous êtes impatientes de savoir quelle sorte d'ébat prenait la fée Trois-Bosses dans le tuyau de la cheminée. » C'était une petite sorcière mal faite, qui avait en effet trois bosses. Imaginez où elle portait la troisième. Son esprit était aussi contrefait que sa taille, et son âme aussi noire que son visage, qui n'était néanmoins pas mal noir. Comme elle était ennemie de Lirette, quand celle-ci faisait des dons à des enfants de qualité, elle s'y trouvait toujours pour jeter quelques mauvais présents à la traverse. De là vient qu'avec tant de précautions pour les rendre parfaits, il se trouvait souvent l'être si peu. Trois-Bosses, informées des couches de Rare, accourent à Califourchon sur le premier diable qu'elle trouve pour donner un plat de son métier. On s'attendait bien qu'elle ne demeurerait pas tranquille. On avait fermé toutes les portes hermétiquement même, mais le tuyau de la cheminée restait ouvert, et la maligne fée s'en aperçut. Tant il est vrai que les amis sont moins prévoyants que les ennemis ne sont dangereux. Heureusement pour Rare et pour sa fille, la rage de mal faire aveugla Trois-Bosses. Le tuyau de la cheminée était étroit. Elle s'y précipita sans réflexion. Mais elle eut beau mettre bosse de ça et bosse de là, elle demeura suspendue. Elle fit des grimaces épouvantables, car il est aisé d'en faire quand on est laid. Elle épuisa ce qu'elle savait d'imprécations du hostile. Elle cria, elle tempêta, elle remua ses bras courts, ses pieds tordus. Mais tout ce vacarme ne servit qu'à instruire les fées de la vérité du fait. On veut encore que cela ait donné lieu aux éclats de rire qui échappèrent à Riante. Dès que Trois-Bosses eut laissé tomber sa baguette, la cheminée, se rélargissant peu à peu, lui laissa le moyen de s'échapper. Elle s'en alla honteuse comme on l'est quand on a voulu mal faire et qu'on a manqué son coup. Mais pénétrée de la plus terrible colère qu'elle eût jamais ressentie, elle ne roulait dans sa tête qu'enlèvement, meurtre, vengeance, projet d'enchantement terrible, mais vain. Car que pouvait-elle sans sa baguette? Riante, cependant, croissait insensiblement. On voyait peu à peu épanouir sur son visage ces grâces touchantes qui devaient être le charme de tous les cœurs. Je ne parle pas des cœurs femelles. Ils pouvaient être déjà susceptibles de jalousie, quoique dans ces temps de simplicité, cette passion n'eût pas fait les progrès qu'elle a fait depuis. Je ne vous ai point encore dit quels étaient le pays et le peuple parmi lequel vivait Rare et sa fille. J'y vais revenir par une petite digression. N'attendez pas de moi que je vous apprenne l'air, les gires, le moment, l'aspect de leur naissance. Je suis mauvais chronologiste, et encore plus mauvais astronome. Elles ont vécu il y a fort longtemps. C'est ce que j'en sais. La France était leur patrie. Mais elle était pour lors encore toute gauloise. On y voyait des hospices pêle-mêle avec des druides. Nos bons aïeux grossiers, sentencieux, massifs, avec leurs grandes barbes, leurs cheveux plats, leurs plats visages, n'avaient encore que le sens commun. Se fussent-ils doutés qu'ils seraient les pères d'une nation jolie, légère, maniérée, polie? Eussent-ils cru ces gens à grands caleçons les prodigieuses révolutions des modes, tout ce que la bizarrerie devait introduire de variété dans les coiffures, sur les visages, et le mépris où tomberait le bon sens? Non, sans doute. Ce sont là des coups du destin. Il n'est pas permis de s'y attendre. Comme les dames commençaient à sentir les premières approches du sommeil à cet endroit du compte de l'abbé, il se retira dans le dessein de le continuer les jours suivants. Fin du chapitre 1, enregistré par Ezoie, en Belgique, en juin 2008. Chapitre 2 des Mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 2. Éducation de Riante, précautions inutiles. Riante habitait un petit appartement que lui avait bâti la fée Lirette. Il n'était ni de diamant ni de lapis. C'était bien assez qu'il fût de porcelaine et qu'il fût commode. Aucun homme n'en approchait par les soins de rare. Elle se défiait du cœur de sa fille. Car ce sont les cœurs les mieux faits qui sont les plus tendres. Elle ne voulait pas qu'elle sentît l'amour avant que de le connaître. D'ailleurs, certains présages l'engageaient encore plus à se tenir sur ses gardes. Lirette avait vu dans les astres que Riante, pour être heureuse, devait n'avoir point vu d'homme à 14 ans. Pour distraire cette belle d'une connaissance qui pouvait lui devenir dangereuse, on avait rassemblé dans son palais tous ces bijoux qui font le charme de l'enfance et ce qui peut enfin remplir le vide d'un cœur qui n'a pas aimé. Car s'il a aimé, ce sont autant de joujoux perdus. Riante, qui ne connaissait d'amusement que ceux qu'on lui offrait, s'en occupa d'abord avec vivacité. Mais l'âge vient enfin, et avec lui les inquiétudes et les désirs, on ne sait comment, avec quelque attention qu'on dérobât à cette belle la connaissance qu'il y eut des hommes au monde, il était impossible de ne pas parler d'eux devant elle, ou il eût fallu ne parler de rien, car ils viennent naturellement à toutes les conversations des femmes. Enfin, ce mot qu'elle avait ouï répéter tant de fois piqua sa curiosité. « Mais qu'est-ce donc que ces hommes ? » demanda-t-elle à ses femmes. D'abord, on ne lui répondit rien. C'était le vrai moyen de faire réitérer la question. Mais ces instances ne produisirent aucun effet. « Vraiment, oui, » reprirent les femmes. « On vous dira ce que c'est que des hommes. Madame, votre mère ne veut pas que vous le sachiez. Voilà bien le caractère des gouvernantes. Ne peuvent-elles satisfaire la curiosité d'un enfant ? Elle l'irrite. Ah, qu'est-ce donc qu'un homme ? S'écria Riante en s'allant jeter au col de sa mère. La question devenait embarrassante, d'autant qu'elle n'était pas prévue. C'est, répondit Rare, une personne dont les occupations sont différentes des nôtres. Et qu'est-ce que les occupations des hommes ? Répondit Riante. Nouvel embarras pour la mère. Elle lui fit entendre le mieux qu'elle put combien il y avait de différents états, en lâchant sur chacun le trait de satire. Pour prévenir sa fille contre le penchant à venir, elle lui insinua que le guerrier était féroce, sanguinaire, le magistrat farouche, ennuyeux. Elle n'épargna pas même les abbés. « Ah, l'abbé ! » interrompit la marquise. « De grâce, qu'en dit-elle ? » « Bon, madame, » répliqua l'abbé, « ce qu'elle en dit était nouveau dans ce temps-là, et ne le serait pas aujourd'hui. Épargnez-moi un acte de modestie qui ne vous apprendrait rien que vous ne sussiez déjà. Contentez-vous de savoir que Rare parvint si bien à dégoûter sa fille de la fantaisie de connaître les hommes qu'il n'en fut plus reparlé depuis. Il fallait néanmoins que la haine que Riante conçut pour notre espèce ne fût pas bien forte, puisqu'un instant la détruisit. On fut étrangement surpris, un jour qu'on cherchait cette belle, de ne la plus trouver dans le palais. Combien Rare se reprocha-t-elle alors sa négligence. Elle avait vu les 14 ans prescrits par Lirette s'écouler presque tous entiers sans qu'il fût arrivé aucun accident à sa fille. Depuis quelque temps, elle l'observait avec moins d'exactitude. C'était par sa faute qu'elle avait perdu son trésor. Lirette vint dans la circonstance, qui augmenta le trouble par l'aigreur de ses reproches. Elle épargna la mère qui était assez à plaindre, mais elle tança sèchement les gouvernantes. « Sans doute, leur dit-elle, on a laissé introduire ici quelque jeune homme. » Puis elle leur fit entendre combien leur désintéressement lui était suspect. Mais comme ce vacarme de la fée ne remédiait à rien, il fallut prendre un parti plus utile. Ce fut celui de consulter les astres. Mais on n'est jamais malheureux à demi. La lune fut obscurcie 4 jours de suite, de manière que le désespoir de Rare et l'impatience de Lirette, ne leur permettant pas d'attendre plus longtemps, c'est au grimoire même qu'elles eurent recours. Voici ce qu'elles y lurent mot à mot. Le trait partait de la main de Trois-Bosses, dont vous aurez sans doute trouvé que la haine se reposait bien longtemps. Mais c'était faute de puissance, et non de mauvaise volonté. Privée qu'elle était de sa baguette, elle était presque réduite à l'état d'une simple mortelle. À un peu plus de malice près. Car jamais elle n'avait travaillé pour acquérir aucune de ces connaissances qui mettent les fées en état de commander à la nature. Le dépit seul lui fit faire ce que jamais l'ambition ni l'honneur ne lui avaient fait tenter. Elle s'enferma dans sa caverne et s'occupa à chercher un secret qui pût l'aider dans sa vengeance. Il fallait que cela souffrît quelques difficultés, car 14 ans s'écoulèrent presque avant qu'elle vînt à bout de son dessein. Enfin, elle parvint à faire un talisman qui lui donnait le pouvoir de prendre la forme qui lui plairait et de se transporter dans un moment d'un bout de l'univers à l'autre. Secret d'une petite conséquence dans l'art de féerie où il y en a tant, mais qui devenait terrible entre les mains d'une femme dont le cœur et l'esprit étaient si dangereux. Dès qu'elle fut en état de nuire, elle se rendit en un clin d'œil au petit palais qu'habitait Riante, invisible, et cherchant sans cesse le moment où cette belle serait seule pour l'aborder. L'occasion ne tarda pas à naître. Fatiguée d'une promenade qu'elle venait de faire, Riante dormait sous un berceau de jasmin. La maligne fée vint s'asseoir auprès d'elle en attendant que son sommeil finît. « Je crois, mesdames, avoir négligé de vous dire que la baguette de Riante ne pouvait lui être enlevée sans son consentement. Sans cela, il ne serait pas probable que son ennemi eût attendu les bras croisés qu'elle fût éveillée. Seulement elle préparait les pièges qu'elle allait lui dresser, et pour les rendre plus dangereux, au lieu de la forme hideuse que vous lui connaissez, elle prit la figure du plus charmant, mais du plus traître de tous les dieux. Dieu que vous connaissez sans doute, et qui le connaîtrait mieux que vous, si ce n'est ceux à qui vous le faites sentir. » Fin du chapitre 2, enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
Chapitre 3 des Mille et Une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 3. Ce que Riante vit à son réveil et comme elle apprit à rêver. La fée était sous ce charmant attirail lorsque la belle ouvrit les yeux. Vous comprenez facilement la surprise de Riante à la vue d'un objet si nouveau. Son premier mouvement fut de se croire encore endormie. Elle porta la main à ses yeux pour les aider à s'ouvrir. Alors la fée prit la parole. « Vous êtes éveillée, belle Riante. Vous êtes surprise de me voir. »«
Et qui êtes-vous ? »
dit innocemment la belle. « Je suis l'amour, » répondit la fée.
« L'amour ? » reprit Riante. Vous avez là un joli nom. Ah, vous avez des ailes. D'où cela vous vient-il? Que cela est charmant, des ailes couleur de rose. Il faut que maman m'en donne. Mais vous êtes nue, cela n'est pas bien. Et qui vous a conduite ici?
Le plaisir de vous voir, répondit la fée. Je traversais les airs,
car ces ailes que vous me voyez me servent à voler. Je vous ai vue en passant, je vous ai trouvée si charmante que je n'ai pu me refuser au plaisir de m'arrêter auprès de vous. Mais est-il bien vrai qu'on ne vous ait jamais parlé de moi? Que vous ne me connaissiez point?
Point du tout, reprit Riante.
On vous laisse là dans une ignorance bien cruelle, poursuivit la fée.
Imaginez-vous que l'on est heureux que quand on me connaît. Je gagerais que vous vous ennuyez quelquefois.
Cela est vrai, répondit Riante.
Eh bien, laissez faire, lui dit la fée. Écoutez-moi, et vous ne vous ennuierez jamais. Votre mère, vos gouvernantes, ne vous ont-elles jamais parlé des hommes?
Qui? Reprit vivement Riante. Ces vilains hommes?
Qu'appelez-vous vilains hommes? Interrompit la fée. On vous a donc inspiré un furieux dégoût pour eux? Quelle imbécilité!
Apprenez, ma belle, qu'on vous trompe cruellement. Je le vois. Votre mère nourrie et élevée dans les principes d'une vertu sauvage qui ne se plaît qu'à contrarier la nature, vous a fait sucer avec le lait une haine injuste pour tout le genre humain. Mais savez-vous que ces mêmes hommes, dont elle vous a fait des portraits si odieux, s'empresseraient à faire le bonheur de votre vie si vous ne les fuyiez pas comme vous le faites? Ce seraient des esclaves soumis qui n'auraient d'autre volonté que les vôtres, qui ne verraient que vous, qui ne respireraient que par vous, qui mourraient où vous ne seriez pas. Et n'allez pas les croire indignes de votre attachement. Vous êtes belle, Riante. Il est presque impossible de ne pas convenir que vous ne soyez pour l'esprit, pour le cœur, la plus parfaite des créatures. Il est néanmoins un homme au monde qui ne vous est inférieur en rien, qui vous aime, c'est peu dire, qui vous adore.
Et qu'est-ce que cela fait?
Poursuivit Riante.
Ce que cela fait, répondit la fée, c'est que si vous vouliez souffrir qu'il vînt vous dire combien il vous aime.
Est-ce que cela me fera du mal?
Reprit Riante.
Tant s'en faut, répliqua la fée. Il naîtra entre vous une sympathie douce qui vous fera goûter des plaisirs inexprimables. Tenez, je vois que vous êtes ému. Je gagerais que vous sentez au-dedans de vous un mouvement extraordinaire qui vous fait plaisir.
Ah, ma chère Riante, que vous en éprouveriez bien d'autres. Pour commencer à vous rendre heureuse, je vais vous montrer le portrait de votre amant.
Qu'est-ce que c'est que mon amant?
Demanda Riante.
Rien n'est si naturel, répondit la fée. C'est celui qui vous aimera et que vous aimerez.
N'aurons-nous, dit la belle, que le plaisir de nous aimer?
C'est que, je vous avouerai que mes gouvernantes me disent qu'elles m'aiment. Je leur dis que je les aime aussi. Mais cela ne m'amuse pas beaucoup.
Eh bien, ceci vous amusera-t-il? Dit la fée en lui montrant un portrait.
Dites-moi votre sentiment. Ce portrait, mesdames, était celui d'un jeune chevalier extrêmement aimable que la fée avait choisi pour son dessin.
Il fit son effet, ou plutôt, cette sympathie qui dispose des cœurs en un moment agit sur celui de la jeune Riante.
Ah, que cela est charmant! S'écria-t-elle.
Eh bien, répondit la fée, si vous voulez ne rien dire à votre mère, demain venez dormir ici l'après-dîner. J'y transporterai l'original de ce portrait.
Vous êtes bien obligeante, dit Riante.
Je ne fais que suivre mon inclination, reprit le faux amour. Je suis le dieu des amants. Je ne cherche qu'à assortir les cœurs.
Comment? Dit Riante. Vous êtes un dieu et vous vous donnez tant de peine pour moi?
L'emploi le plus noble des dieux, reprit Trois-Bosses, c'est de se mêler du bonheur des mortels comme vous.
Songez seulement à ne rien dire de tout ce que vous venez d'entendre et à me tenir parole.
À ce mot, la fée s'envola. La belle la suivit longtemps des yeux, puis retourna à son petit palais, bien plus rêveuse qu'elle n'en était sortie. Les gouvernantes voulurent pénétrer son secret. Mais elles s'employèrent vainement. Rien ne donne tant de discrétion qu'un peu d'amour. La belle s'obstina et se tut. On voulut la distraire, on fit des jeux, on en inventa. C'est même sur ces entrefaites que le jeu de loi fut renouvelé des Grecs. Je ne puis m'empêcher de rapporter cette époque.
on n'y avait pas joué depuis le siège de Troie. Jugez, mesdames, si cela devait être amusant. Néanmoins, Riante n'y fit aucune attention. Il fallait que l'amour eût déjà gagné bien du terrain. Il me semble qu'il ne serait pas hors de propos de répandre quelques lumières sur l'histoire du portrait. C'était, je l'ai déjà dit, le portrait d'un chevalier fort aimable. N'importe de quelle contrée. Quand Trois Bosses avait montré ce portrait à Riante, elle en avait avec elle 3 douzaines. Résolue d'en montrer jusqu'à ce qu'il y en eût un qui fît son effet. Elle n'eut pas la peine de faire un plus long étalage. Dès que Riante eut vu Gracieux, c'était le nom du chevalier, elle ne fut plus en état d'en voir d'autres. La fée, contente de son essai, se transporta auprès du chevalier pour l'engager à être de moitié d'une intrigue dont elle faisait dépendre la réussite de ses projets. Il était à la chasse. C'était son occupation favorite. La fée épia le moment où il venait de blesser un oiseau d'un coup de flèche. Elle ramassa l'oiseau à la place duquel elle mit le portrait de Riante. À cette trouvaille imprévue, la surprise du beau chasseur alla où elle put aller. Il avait les passions vives. Il en reçut une extraordinaire pour l'original d'un si beau portrait. Il s'assit pour le regarder à son aise. Il était pénétré. Il tressaillait d'étonnement et de plaisir. Tandis qu'il était dans le fort de son admiration, Trois Bosses apparut à lui, non sous sa forme ordinaire, car, amour-propre à part, depuis qu'elle en pouvait changer, la sienne était de toutes les figures celle qu'elle portait le plus rarement et avec le moins de complaisance. Vous voyez qu'il est quelque modestie dans le monde. Elle se présenta donc au chasseur sous une forme majestueuse. Fin du chapitre 3. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008.
The Humana Honor Medicare Advantage Plan gives you $1,860 back each year in your Social Security check. Choose coverage that helps you keep more money in your pocket. Learn more at gethumana.com. Humana, a more human way to healthcare. The Part B Give Back benefit pays part or all of your Part B premium, and the amount may change based on the amount you pay for Part B. Limitations and restrictions may apply. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.